Bille en tête avec le marché bio d'Agrobiorama Expo du 21 au 24 avril à Lausanne.
Bonjour monsieur, c'est l'émission Bille en tête. Pourriez-vous me dire pourquoi est-ce qu'à Vevey on dit pneu?
Pourquoi à Vevey on dit pneu?
Pneu.
Je peux pas vous dire.
Ça me rend tout pneu.
Ah, pas chante pneu.
Et voilà, c'est dans la poche. La suite, s'il vous plaît.
Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bille en tête a quitté le bout du monde de Vevey pour venir en ce jeudi s'installer à The Fork, Philippe. Hello.
Salut déjà, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes dans cet établissement qui est juste magnifique et somptueux en termes d'aspect, présentation. Il y a plein de vieilles choses. Enfin, moi, j'adore. Et nous sommes au bord du lac, dans un cadre idyllique. Et nous sommes surtout en compagnie de Jean Baudivy, qui est en plus un de mes anciens élèves et qui est un futur confrère, puisqu'on va travailler bientôt, prochainement, l'un à côté d'autre. Alors, salut Jean, merci de nous accueillir.
Salut Philippe, salut Duja.
Un mot sur ton parcours, Jean, quand même, parce que je crois que tu as vécu plusieurs vies ici dans les métiers de bouche de la région.
Alors j'ai surtout fait mes armes donc sur Lausanne, donc dans des références comme justement la Bossette il y a quelques années. Je crois que j'ai commencé en 97 là-bas. Après j'ai fait l'école hôtelière avec Philippe Ligron.
Comme quoi on peut parvenir à quelque chose dans la vie.
Et oui, comme quoi.
Après avoir suivi les cours de Philippe Ligron.
Ouais, ça mène à tout, hein, c'est incroyable. Quoi. Mais d'ailleurs, très très bon souvenir. Hein, j'en garde vraiment de bons souvenirs.
Ouais, tu es bien le seul, je crois.
Non, j'ai un souvenir en particulier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Une anecdote, peut-être pour la fin. Alors, on la garde pour la fin.
Comme ça, ça donne un peu de suspense. Comme ça, j'écouterai l'émission en direct, enfin, quand elle passera, et j'aurai la surprise de savoir ce qui.
D'accord, marché conclu, copain.
Ouais.
Allez, hop, on part à la Fork. Tu disais que tu avais développé ton travail à travers différents établissements régionaux, dont lausannois au début.
Exactement, puis différentes gammes de restaurants, donc faire du bistrot de quartier, du resto un peu gaucho-bobo, comme on le décrivait à l'époque dans les journaux. Donc je parle de la Bossette, là, donc la brasserie du château, le Lyrique après mes études, donc brasserie encore, spécialité grecque. Mais sacrée industrie, hein, ça, on en voyait là-dedans. Puis après, j'ai voyagé un petit peu, donc je suis parti au Vietnam, bourlingué un petit peu sur une plage, des doigts de pied en éventail, à boire des cocktails toute la journée. Mais
ça donne des idées quand même, ce genre de destination, parce qu'on sait que le Vietnam, le Sud en tout cas, est extrêmement riche en diversité d'épices, de choses extrêmement subtiles. C'est une cuisine extrêmement subtile, la cuisine sud-vietnamienne.
Bien sûr, ouais, ça donne beaucoup d'idées, puis ça permet d'ouvrir un petit peu, s'ouvrir de l'esprit, justement.
Ouais. T'as des souvenirs là-bas?
Non, justement, j'en ai plus beaucoup.
Ah, c'est ça. C'est bien, c'est mon signe.
Non, j'en ai beaucoup.
Il y a des choses comme ça qui t'ont marqué, un plat, des choses simples, parce que je sais que Philippe, c'est le Cambodge, je crois, où tu as complètement halluciné sur une espèce de soupe de quartier faite par une vieille dame. Il y a des choses qui t'ont marqué, des choses extrêmement simples.
Non, c'est plutôt des expériences culinaires un petit peu extrêmes, qui m'ont marqué, où j'étais invité justement par des employés du petit hôtel dans lequel je travaillais. Donc c'était les jardiniers de ce petit boui-boui qui s'appelait Petit Boui-boui, je suis méchant, mais le Cham Villas. Et puis ils m'ont invité pour un repas de fête, on va dire. Et puis j'ai eu le privilège, on va dire, entre guillemets, de goûter le canidé.
Ah oui.
Et puis dur, très dur.
Bon, en même temps, on parle de ça. Il faut savoir que quand même, la Suisse est un des derniers pays d'Europe.
En Appenzell.
Où on a mangé, où on mange encore de la viande de chien. Donc finalement, c'est plutôt quelque chose qui tourne autour de l'affectif et de certains interdits de notre société.
Par rapport à l'affectif, c'est vrai que moi, je suis un amoureux de ces bébêtes. Donc déjà, c'était un petit peu difficile. La manière dont ça m'a été amené, c'était aussi assez extrême parce que j'étais dans une petite cahute. Il y avait quatre murs et puis une vieille carcasse de chien toute dépiotée au sol.
T'échapper.
Enfin, non,
et puis. Tu étais complètement confronté au moment, on peut dire.
J'ai envie de dire, par respect aussi pour mes hôtes, j'ai goûté. Mais alors, on dirait de la chasse en beaucoup plus fort, quoi. Là, c'était assez. C'était goûtu.
Et hein. Il s'appelait comment?
Je n'ai pas demandé. Dans l'état où il était, il ne m'a pas répondu, en tout cas. Ouais. Mais donc il y avait ça, il y avait le serpent aussi, ça c'était super intéressant. Et c'était.
C'est vrai que c'est comme du poulet.
Ça dépend quelle partie. Ouais. Parce que tout se mange. Tout se mange, de la peau aux os, au cœur, à la vésicule biliaire. Et le cœur qui bat dans l'assiette, c'est vrai. Hein. Ouais, ça c'est vrai.
Le cœur du serpent.
Ouais. Donc on boit le sang avec de l'alcool de riz. Et puis on gobe le cœur encore battant dans l'assiette. Ouais.
Et ben on va donner l'appétit à plein de gens aujourd'hui.
Voilà, hein, ça fait plaisir. Venez me voir. Venez à
mais bon, en même temps, faire déguster certains de nos fromages à ces peuplades ou alors leur faire déguster les escargots de Bourgogne, ça les traumatiserait aussi. Des cuisses de grenouilles, peut-être. Quoique non, il y a des gens en Asie qui sont quand même prêts à tout, il me semble.
C'est pas faux.
C'est pas plus ouvert. C'est pas les plus ouverts, Philippe, toi qui as bourlingué.
On dit que la gastronomie chinoise veut qu'on mange tout ce qui est vivant. Il n'y a pas d'interdit. Vraiment, tout ce qui est vivant se mange. Ça va des insectes.
Les êtres humains, alors, c'est vivant.
Ouais, on pourrait, ouais, dans l'absolu. Il n'y a pas d'interdit, quoi. Alors après, voilà, c'est, bien évidemment, on ne mange pas de l'être humain couramment en Chine. Je ne sais même pas si on en mange. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdit dans la gastronomie chinoise à propos de ça.
Bonjour, c'est Mission Bi en tête. Vous connaissez quoi comme bon restaurant à Vevey?
À Vevey? Ah bah il y a à la Tour de Paix, qu'est-ce qu'il y a, la Couronne?
À Vevey.
On devrait connaître. Mais pour la Couronne, oui. Mais c'est à la, je crois que c'est pas si c'est Vevey ou la Tour de Paix.
Mais The Fork.
Oui, puis c'est depuis la cuisine.
Non, le national.
Le nucléose.
Le national.
Moléculaire, oui, mais la fourchette, The Fork. Parce qu'on ne dit pas The Fork, mais étant donné que ce sont des Français qui l'ont repris. Ouais. The Fork, ça vous dit quelque chose?
Les galeries que les restaurants.
Ah, ben conseillez-nous une bonne galerie à Vevey, alors.
Ah, ben il y a le quai 1.
Vous connaissez Jean-Marc Béguin?
Bien, absolument.
Ouais. D'accord. Très bien.
Jean-Marc Béguin. Vous êtes son épouse?
Oui!
Mais non! Voilà. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite! La dernière fois, vous étiez habillé en tenue de ski! Ah, bah quel bonheur! Jean-Marc Béguin, qui est le chef que j'adore, qui dort juste à côté de mon bureau. Ce genre d'expérience extrême, Jean, est-ce que ça nous apprend des choses lorsqu'on rentre sur notre rapport à la nourriture, à l'alimentation, à la gastronomie?
Je dirais que c'est plutôt une envie de découverte, mais je crois que c'est une déformation professionnelle pour moi, donc j'ai toujours envie de tester. Je suis allé en Islande là il n'y a pas si longtemps et j'ai goûté ce qu'ils appellent le mink whale, alors que je m'étais dit en y allant, jamais je mangerai de la baleine, quoi. La vache, c'était super bon, quoi. Je suis désolé de le dire, mais c'était une super expérience, quoi. On a pas mal d'a priori aussi sur, justement, ces cuisines nordiques, enfin, d'a priori ou pas, parce que c'est vrai que c'est une cuisine qui est assez émergente au jour d'aujourd'hui. Ce que j'avais lu avant de partir en Islande, c'était que, justement, on y mangeait très mal. Et bah écoutez, à mon avis, on y mange divinement bien, quoi. Voilà, donc moi, c'est plutôt dans la recherche de nouvelles choses, nouvelles saveurs, nouvelles épices.
Nouvelles herbes, peut-être. On sait qu'ils travaillent beaucoup avec des herbes. On connaît l'aneth, hein, les pays du Nord, on a goûté à Copenhague. Mais il y a d'autres herbes comme ça, de la toundra, de la taïga, des racines, des choses un peu étranges qui nous parlent moins. Et ouais, ça peut donner des idées. Ici, on peut essayer d'utiliser aussi des trucs de la forêt ou des fleurs, comme Wenger le fait au hasard. Hein, je cite lui parce que ma culture s'étiole à ce niveau-là, Philippe.
Je pense que ça demande aussi beaucoup de connaissances par rapport à des produits dans les sous-bois, d'aller faire sa cueillette. Voilà, je ne suis pas Marc Béra non plus. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas cuisinier. Moi, j'ai créé mon établissement. J'ai une super équipe en cuisine. On crée les assiettes ensemble. On en discute énormément. Ça fait partie d'un processus créatif qui est bien rodé. Mais en effet, si c'était moi qui devais vous faire la cuisine, bah, vous poireauteriez un petit moment avant que vous soyez servi. Quoi. C'est un peu...
bien tête.
Philippe, toi tu évoquais il n'y a pas très longtemps l'importance de cette culture du sous-bois, cette nouvelle culture gastronomique. Tu prévoyais qu'on allait revenir à ces choses de la forêt, des bois, des racines, des herbes, des plantes, des fleurs.
Oui, parce que on redécouvre notre gastronomie, parce qu'on se rend compte que finalement tout ce qu'on met en place maintenant ne sont pas réellement des inventions, mais des réinterprétations d'une gastronomie qu'on a utilisée dans le passé. Effectivement, les essences sont très intéressantes. On se rend compte maintenant, c'est la grosse découverte maintenant, on se dit, ah mais les fleurs sont comestibles, c'est hallucinant, on n'aurait jamais imaginé ça, parce que ces 50 dernières années, on s'est mis des tonnes d'interdits alimentaires pour différentes raisons.
Pourquoi pas les fleurs alors ? Ça vient de quoi cette interdiction ou ce désintérêt pour les fleurs ?
Ben parce que les fleurs, c'est quelque chose qui est décoratif. Donc
en même temps, les offres, hein, peut-être aussi pour signaler son affection. Donc ouais, les manger, c'est comme manger l'amour, le faire disparaître, le digérer.
Parce que moi, ça me fait penser, on parle des fleurs, ça me fait penser à la tomate. Quoi. Quand les Italiens ont commencé à consommer de la tomate, hein, je parle de la Renaissance, les Français n'en mangeaient pas, ils s'en servaient de décoration parce que c'était un fruit rouge, une petite pomme d'or.
Un bouquet de tomates pour déclarer ta flamme.
Ouais, un peu ça, et puis maintenant on en mange couramment. Pour revenir à ta question par rapport à ces essences de sous-bois, etc., on s'en rend compte beaucoup aussi par rapport au fait qu'on fume les aliments. On va faire des techniques de fumage pour pouvoir les torréfier. La torréfaction est très à la mode pour tout ce qui est poisson, mais aussi viande et même parfois certains végétaux. Et les essences d'arbres sont très très importantes. On travaille beaucoup avec les champignons aussi. Et tout ce bois dont tu parlais avant revient énormément à la mode, effectivement.
L'essence, la fameuse station d'essence, hein ?
Absolument.
Tout à l'heure, on en revient à The Fork. Ici, qu'est-ce qu'on peut manger ? Quelle est votre culture, votre philosophie en matière de gastronomie ?
Justement, le concept que j'avais créé avec la station d'essence, c'est de faire des assiettes en trois façons autour de différents thèmes. Donc là, je vais énumérer un petit peu la carte. On a les thèmes de l'alpage, du potager, du lac, de la mer, du foie gras, du chocolat, etc. Et pour chaque thème, on va vous préparer trois choses qu'on va disposer dans la même assiette.
Pourquoi trois ?
Pourquoi 3 ?
Ça revient souvent, hein, ce mot 3, ce chiffre, je veux dire.
Du reste, quand tu offres des roses, des fleurs à quelqu'un, tu offres toujours déjà par chiffre impair. Et 3 en gastronomie, c'est le chiffre clé. C'est marrant qu'on parle de ça d'ailleurs. C'est la première fois qu'on parle de ça dans ma tête.
Je vois tes petits yeux qui frétillent, Philippe.
Parce que le chiffre 3 était sacré chez les Romains. Et les Romains cuisinaient tout autour du chiffre 3. C'est hallucinant quand même.
C'est assez drôle parce que moi, je suis d'origine bretonne. On est plein de bretons aussi dans l'équipe. Et puis, on peut également parler de la cosmogonie celte et donc du triskel. Symbole celte, et voilà, c'est les trois éléments qui formaient justement la cosmogonie celte.
Do you eat pork at the fork?
Et maintenant, parlons de peut-être un peu la spiritualité et la réflexion comme ça, peut-être plus approfondie, pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus basique qui est la technique de la dégustation. Et la technique de la dégustation, c'est prouvé depuis de nombreuses années que tout tourne autour du chiffre 3. Dans un plat, on dit qu'il faut 3 saveurs maximum.
3 couleurs.
3-4 couleurs. On peut aller jusqu'à 4 couleurs, mais il n'en faut pas plus. Sinon, ça sature le regard et l'appétit.
Mais servir 3 fois si c'est bon.
Oui, mais ça, c'est toi. mais les 3 saveurs, c'est très, très important. Parce que si tu n'as pas 3 saveurs, si tu en as 2, ou si tu en as 4, c'est pas la même chose. 3 saveurs sont indispensables pour équilibrer les sensations gustatives d'un plat.
Oui, c'est incroyable. Alors là, j'en reviens à ce qu'on disait il n'y a pas très très longtemps, où certaines cuisines, on nous dit « Ah, mais c'est une explosion de saveurs, je sens 1000 goûts différents, cuisine asiatique. » Là, il n'y a plus que 3 saveurs.
Mais
plus
l'explosion
que 3 saveurs,
de saveurs ne veut pas dire en termes de quantité, mais en termes de qualité. Quand tu vas goûter, moi je sais pas, en ce moment je suis assez agrume, je pense à la main de Bouddha, avec laquelle d'ailleurs je vais faire un banquet prochainement, et cette main de Bouddha, c'est un agrume. Mais il y a une explosion de saveurs, de voilà, il n'y a qu'une saveur en fait, mais c'est une explosion de cette saveur là. Voilà, donc c'est très important de le spécifier.
Donc, explosion de saveur au singulier, alors qu'il peut y avoir explosion au pluriel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête. Comment dit-on la fourchette en anglais ?
Je sais pas.
La fourchette.
Je ne sais pas.
On dit que la fourchette.
La fourchette.
Ouais, mais en anglais. Genre, des exemples concrets, alors on va poursuivre peut-être l'énumération des possibilités de The Fork.
Ben alors, avec grand plaisir, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous parler de l'alpage, par exemple. Dernière assiette, dernière entrée qu'on a sortie. Donc, qui sera composée d'une petite pomme grenaille farcie au morbier et au chorizo. Ça, c'est la première partie.
Morbier, donc pas du tout une horloge, mais un fromage français.
Un fromage, absolument. Oui. Le deuxième, c'est un malakoff au mori sur une petite salade d'herbe. Et le troisième, c'est un crostini avec tête de moine, viande des grisons, une petite compotée de betterave. Et voilà, donc l'assiette de la page se compose de ces trois préparations.
Oh, et réunir la tête de moine jurassienne avec de la viande des grisons, il y a une espèce d'unité confédérale comme ça, c'est incroyable.
Oui, mais ça marche très très bien. Ouais.
Cette idée-là, ça fonctionne auprès des gens, c'est pas trop cérébral, parce que des fois on sait qu'il y a des gens qui vont au restaurant et puis ils veulent manger leur plat, ils aiment bien leur truc, leur entrée, plat, dessert, puis de goûter plein de trucs différents dans un ordre particulier qui évoque un concept, ça devient... peut-être un peu trop intello.
Je pense que justement pas, je pense que c'est vachement ludique. C'est vraiment... Nous, on s'éclate en plus à présenter les assiettes, on a un style de service qui est un petit peu décontracté, contraste peut-être un petit peu avec le cadre, mais les gens viennent ici justement pour découvrir des choses et puis en fait, vous prenez entrée, plat, dessert et vous aurez dégusté 9 choses différentes. Voilà, vu qu'on essaie de diviser tout par 3. Donc ça permet de faire un petit voyage gastronomique en 1h30, vous aurez dégusté plein de choses et puis on essaie de vous faire découvrir, faire des accords, mélanger des saveurs, des produits. Voilà, on essaie d'être le plus créatif possible. En tout cas, on se creuse la tête.
Ouais. Voilà. Là, tu nous as mis l'eau à la bouche et quand on parle d'eau, on parle du lac, le lac, saveur du lac, concept, il y a quoi là?
Ah bah là, alors actuellement, une entrée autour du lac... Et puis un plat autour du lac. Alors habituellement on a plutôt une fois la mer, une fois le lac, mais là on est en période de transition, la mer revient sur les entrées. Bref, actuellement on fait une entrée avec un lotillon en feuilles de nori sur une confiture de jalapeños, un ceviche de truite crème aux herbes et un filet d'omble chevalier cuit au chalumeau sur fondu de poireau avec une petite vierge amande et noisette.
C'est magnifique, ça.
Ouais, ça donne envie.
Ouais, vraiment.
Très, très jolie assiette. Ça, c'est cartonne, quoi.
Là, tu te fais plaisir aussi.
Mais on s'éclate, c'est ça. Comme je vous disais, quand on vient décrire les assiettes à nos clients, parce qu'on leur explique, les gens oublient rapidement, vu qu'il y a plein de choses dans les assiettes, ils oublient rapidement ce qu'on leur a proposé. Donc, on fait toujours notre petit show, notre petit speech avant qu'ils puissent déguster leurs assiettes. Et ça fait partie de l'âme de la maison.
Mais parfois, Philippe, je m'excuse de t'interrompre, en plein mouvement, hein, il y a un truc qui est quand même fou, c'est de... tout comprendre à ce que tu viens d'énumérer. Parfois, tu as l'impression que c'est un peu pompeux, pompier, ce genre de présentation, tu sais, sur lit, de machin. Et là, on sent que tout est simple, c'est des choses qu'on connaît, qui sont identifiables, mais qui sont mises ensemble. Enfin, je ne sais pas si c'est depuis que je pratique en compagnie de Philippe Ligron que j'arrive à décrypter comme ça l'est. Ouais, ça doit aider aussi. Mais Philippe, je ne sais pas, on a l'impression que c'est pas guindé, surfait. Il n'y en a pas trop, c'est pas trop pompeux.
Le but quand même d'une appellation culinaire, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire le fait de...
Il faut qu'elle ait du sens.
Ouais, alors, mais ça, c'est un peu passé. Je crois que ça a été beaucoup caricaturé, d'ailleurs. Je pense que maintenant, on revient à des choses beaucoup plus simples. Et puis, moi, j'aime bien, parce que j'ai pas non plus compris 100% de ce qu'a dit Jean. Mais...
Non, justement, je disais que c'était extrêmement compréhensible, même pour un enfant de 3 ans.
Ouais, ben moi, justement, je trouve ce qui est intéressant, peu importe qui a compris quoi, on s'en fout, mais ce qui est important...
C'est bien que les gens sachent que tu ne comprends pas ce que vient de dire ton ami.
Et ancien élève, c'est encore plus grave.
Parce que lui, non, mais... comprenait rien à ce que tu lui racontes.
Non, ce qui est important, c'est de créer une relation amicale, un contact entre un serveur. C'est fini maintenant, le comme tu disais avant, ce type de restauration où tu as le serveur qui a l'impression...
Saumon à la bigotière, enrobé dans son carnachon de pommes fraîches.
Et puis il tourne, il claque les talons, il tourne et il s'en va directement sans savoir si quelqu'un a compris la chose.
Il vient te servir, t'as pas fini de boire, il vient vite, il vient tout le temps te demander si t'as besoin de quelque chose.
C'est pas du tout l'image qu'on veut véhiculer. Quoi. Ouais, c'est plutôt une bonne tape derrière le pôle et puis en disant, allez, bon appétit, éclate-toi.
Mais ça a existé, ça a existé.
Oui, mais oui, mais
ça existe encore peut-être.
C'est un peu en perte de vitesse. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu découvres des mots, tu découvres des ingrédients, des aliments que tu connais pas. Puis c'est là où, avec la personne qui te propose le menu, tu peux lui dire oui, mais ça, c'est comment, etc. Et c'est là où tu crées un lien et c'est là où tu crées l'appétit et l'intérêt de la personne pour déguster ce que la personne va pouvoir déguster. Donc c'est ça, à mon avis. L'humain, c'est le futur de l'alimentation. Il va nous falloir de l'humain de plus en plus parce que c'est l'ingrédient principal qui a manqué ces dernières années par rapport à l'exemple que tu mentionnais juste avant.
Bonjour messieurs, je fais un reportage sur Vevey. Vous aurez quelque chose à me dire sur Vevey?
Je connais très peu Vevey.
Ah ouais? Vous êtes de Lausanne?
Oui.
Vous êtes jamais allé à Vevey?
Si, j'ai fait des cours à Vevey. Je connais pas très bien. La fête des vignerons, j'ai pas participé à la... comment dire, à la reine. Hein,
mais... C'était pas vous sur le cochon, là?
Non, 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 c'était pas moi.
Avec la feuille d'érable?
Non, 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 c'était pas moi, mais on m'a longtemps confondu.
Ah
parce,
ouais,
que,
ouais, parce que vous le la prenez beaucoup.
La l'affaire d'érable.
Ah oui, c'est tout ce qu'il y avait derrière. Mais à ce propos, au niveau humain, comment se passe l'élaboration de ces plats? Vous êtes toujours d'accord? Ça fait l'unanimité? Tu dis, c'est très ludique. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont ludiques, mais qui sont nées, en fait, dans la contradiction ou dans les engueulades.
Je dirais qu'il n'y a jamais d'engueulade par rapport à un plat. Par contre, la contradiction, ouais, il y en a quasiment toujours. Jamais 100% d'accord sur les propositions qui sont faites. Après, il y a les propositions, après il y a la dégustation. Et puis après, voilà, il y a des ajustements systématiques. Hein. Ça ne se fait jamais aussi simplement que ça.
Il y a eu des belles choses qui sont passées à la trappe parce qu'elles ne fonctionnaient pas auprès du public alors qu'on était fiers de son plat. Des crèves-cœurs, ça arrive dans toutes les professions.
Bah, j'ai envie de dire non.
Ah non ?
Non. Non, franchement, on s'est rarement trompé. Le seul truc qu'on ait raté, c'était des tripes. Et en même temps, moi, je n'étais pas convaincu, mais je ne cours pas après non plus. Hein. Ouais.
Ah ben ça tombe bien parce qu'on est un spécialiste de la tripe.
Moi j'adore ça, mais après voilà.
Mais comment justement réinterpréter les codes basiques de la tripe? Les tripes que tu connais bien parce que je crois que tu vas en manger du côté de Lucent.
Ouais, chez la baronne. Baronne. La baronne à qui je fais un gros poutou.
Comment réinterpréter ces plats-là?
Comment je réinterpréterais des tripes, puisque c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus youpi quand on le voit. Eh ben moi déjà je choisirais les tripes que j'utiliserais. Je prendrais pas de feuillet par exemple. Je prendrai peut-être pas de panse, je prendrai, bon, on sait qu'il y a quatre estomacs, le bonnet, la panse, le feuillet, la caillette. Je prendrai de la caillette. Pourquoi? Parce que la caillette a quand même une forme qui est peut-être un peu moins repoussante. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et puis, ce sont des préparations qui sont très grasses. Ben, moi, si j'aurais envie de les réinterpréter, comme ça, hein, c'est de l'improvisation pure, ce que je vais dire, eh ben, je mettrai des agrumes avec. Je parlais des agrumes avant. Mais justement, pour alléger, pour donner une sensation de fraîcheur, et après, comme disait Jean, il faut essayer, puis il faut pas forcer les gens. Il faut leur dire, voilà, moi, je vous propose ça, j'ai essayé, franchement, ça c'est cool. Faites-vous plaisir et vous me direz ce que vous en pensez. Je crois que les gens, quand on les amène comme ça, on les sollicite, c'est beaucoup plus attrayant.
Est-ce que vous visez une clientèle particulière ici à The Fork? Quels sont les avec quel budget on peut s'éclater en gros? C'est ça ma question, elle est basique.
Alors, au contraire, on vise absolument aucune clientèle particulière. Que ce soit le jeune couple de 18-20 ans qui sortent pour la première fois et puis qui font leur première expérience, on va dire, un peu gastronomique. Que ce soit les personnes âgées à fort pouvoir d'achat, que ce soit les familles, que ce soit la bande de mecs qui se fait une soirée un vendredi soir et puis qui crache pas dans la soupe non plus. Donc vraiment, on touche absolument tout le monde. Le midi, autant des ouvriers que...
Le plat du jour, il y en a?
Oui, oui, bien sûr, on a deux plats du
combien,
jour.
Combien, juste pour se faire une idée?
18 et 21. Ouais. Voilà, puis on fait des super jolis trucs. Quoi.
Ah ouais. Vraiment, Mais au niveau budget, par exemple, un petit couple de jeunes qui vient, là, ils veulent quand même se faire plaisir... Je sais pas, une célébration quelconque, ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble, ça fait tellement longtemps. Ils désirent se faire plaisir. Non, mais juste pour donner une idée, parce que des fois, c'est vrai qu'avec ces tarifs, on s'y perd un peu, parce que certains nous disent, non, mais vous pouvez faire un brunch à l'hôtel, c'est 50 francs par personne. Une famille de 6, ça fait quand même 300 balles, donc je sais pas qui peut sortir ça. C'est juste pour donner un peu des fourchettes de prix, justement.
Alors, pour, on va dire, vous venez le soir, vous faites apéro, entrée, plat, dessert, pinard, café, etc., faut compter entre 80 et 100 francs par personne. Voilà, mais là, vous avez la totale, on va dire.
C'est raisonnable.
Ouais, ça va, ça va. Avec une entrée, plat principal, dessert, tu dis.
Ah ouais. Et les boissons avec, vous arrivez, ouais, 80, 100 francs, selon ce que vous prenez, quoi.
On a beaucoup parlé gastronomie, boissons aussi. Tu parlais avant de la gastronomie, un rapport très fort avec le terroir, poissons du lac, légumes d'ici, etc. Viande, j'imagine, aussi du coin. Au niveau du vin, ça se passe comment? T'es aussi dans la même dynamique?
Alors, tout à fait. Je me suis limité aussi un petit peu au niveau d'une zone géographique. Je fais Suisse, majoritairement, bien sûr. France, j'ai un petit attachement quand même.
Italien aussi.
Et italien. Et je m'arrête là.
Pas d'espagnol.
Non, je vais pas. Dommage. Mais je sais, mais il y a plein de choses qui sont dommages. Mais je pourrais aller jusqu'en Amérique du Sud au final. Quoi. Mais non. Je me limite un petit peu parce qu'il y a tellement de belles choses à travers le monde. Mais il y a suffisamment de belles choses tout autour de nous. Éventuellement, je pourrais me dire aller Autriche. Mais ce que j'essaie de plus faire, c'est Suisse allemande, Grison, Tessin, bien sûr. Voilà. Donc j'essaie de farfouiller plus sur le territoire suisse déjà. Et puis après, des références en France, même pas mal de choses en bio. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de petits fournisseurs qui émergent, qui se spécialisent là-dedans. Et puis on trouve des petits produits abordables, qui sont vraiment des vins plaisir, que nous on adore servir en terrasse dès qu'il commence à faire beau et chaud. Des petits rouges à boire un peu frais. Voilà, c'est une petite merveille.
Syrah.
De la Syrah, mais plein d'autres choses.
De la Syrah, Syrah fraîche, c'est bien. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est très bon ça. Ouais.
C'est un peu excitant et aphrodisiaque.
Oh, certainement.
Je le tiens d'un célèbre sommelier de Saint-Symphorin.
Tiens donc.
Ouais.
Il était pré-poète, hein, suivant l'heure.
Ouais. Merci beaucoup, Jean.
Merci à vous.
Ça fait un plaisir. Merci, Philippe.
Merci, Duja. Merci à tous. Ciao, à demain.
En tête avec le marché bio d'Agrobiorama Expo du 21 au 24 avril à Lausanne.
La première, il est 10h.